Un silence sacré avait accueilli ces paroles prophétiques. Chacun avait perçu dans la maison d'Élisabeth que Dieu continuait à visiter son peuple. Marie, presque gênée d'avoir été le centre de l'attention de tous, redevint peu à peu, dans la simplicité, la jeune fille attentionnée et délicate que tous connaissaient. Elle se mit au travail joyeusement, tenant compagnie à sa cousine jusqu'au jour de la naissance. 3 mois passèrent donc, et un matin, à l'aube, Zacharie, ému jusqu'aux larmes, put contempler le fils qu'il n'espérait plus. Il attendit les 8 jours prescrits par la loi et organisa dans sa maison la grande fête de la circoncision de l'enfant. On chanta les louanges du Seigneur et l'un des anciens de la synagogue grava dans la chair du petit le signe de l'alliance. L'un des assistants dit « Tu vas l'appeler Zacharie, bien sûr ». Zacharie ne répondit rien. Depuis des mois, il ne prononçait aucune parole, à la suite d'une vision qu'il aurait eue au temple lors de son service à Jérusalem 9 mois plus tôt. Ce fut, à l'étonnement de tous, Élisabeth qui affirma « Non, il s'appellera Jean ». Au même instant, Zacharie sortit de son mutisme. Autant de faits merveilleux qui laissèrent présager que le nouveau-né aurait un destin extraordinaire. Marie, qui n'estimait plus sa présence indispensable, reprit le chemin de Nazareth. Jour après jour, elle avait senti monter en elle la présence d'un être nouveau. Sa taille s'était faite plus forte. Joseph, tout heureux du retour de sa fiancée, fut le premier à s'apercevoir du changement opéré en Marie. En quelques instants, son univers chavira. L'inconcevable était arrivé. Plus que la stupéfaction, la souffrance envahit son âme. Il connaissait la conclusion de ces sortes d'affaires. Marie, officiellement, était considérée par la loi comme sa femme. S'il révélait qu'elle attendait un enfant qui n'était pas de lui, elle serait traînée en dehors de la ville et tuée à coups de pierre par la populace. Marie, sa Marie. Non. Non, il ne dirait rien. Simplement, il lui enverrait une lettre de divorce et laisserait ensuite aller à volo sa pauvre vie, marquée à jamais par son amour perdu. Marie n'avait rien répondu à ses interrogations. Elle l'avait regardé en silence, avec ses yeux confiants qu'elle avait toujours eus, des yeux qui parlaient de tout, sauf de bassesse et de trahison. Joseph ne comprenait plus. Et quand il s'abattit les nerfs brisés sur la natte qui lui servait de lit, il espéra de toutes ses forces que le Tout-Puissant lui donnerait un sommeil sans rêve. Mais il n'en fut rien. Vers le milieu de la nuit, une voix retentit au plus profond de ses songes, une voix qui allait le sauver de la tentation du doute.
Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre auprès de toi Marie, ta fiancée. Elle est enceinte, c'est vrai, mais non d'un homme. C'est l'Esprit-Saint qui a accompli cela en elle.
Cette nouvelle inattendue réveilla totalement le jeune charpentier, qui aussitôt mit en rapport les paroles de son rêve avec une prophétie du prophète Isaïe qu'il avait maintes fois entendue à la synagogue, quand la communauté manifestait son espoir de voir arriver le Messie. Voici que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils que l'on nommera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Au petit matin, il se rendit à la maison de Marie. À sa façon de la regarder, la jeune fille comprit que son fiancé était devenu partie prenante des confidences de Dieu. Quand Joseph lui prit la main et lui dit que le temps de leur noces était arrivé, elle sut que toutes les énergies de cet homme seraient désormais tendues vers la réalisation du plan divin sur elle. Le premier jour de la semaine, les tambourins et les sistres résonnèrent pour le mariage du charpentier. Sous le dais de lin blanc, ils burent alternativement à la coupe que leur tendait l'ancien de la synagogue et scellèrent leur union devant le village. L'enfant pouvait venir. Pour tous, il serait le fils du charpentier. Pour Marie et Joseph, l'Emmanuel, Dieu avec eux. Tout avait repris son cours normal à Nazareth. Après la fête des noces de Marie et de Joseph, d'autres petits événements s'étaient produits dans la ville qui avaient contribué à faire entrer de nouveau dans l'ombre le charpentier et sa jeune épouse. On ne parlait de Marie que pour dire qu'elle mettrait au monde sous peu son premier-né. On la voyait de moins en moins aller puiser au puits. Quant à Joseph, dans l'attente de l'événement, il n'acceptait plus que des travaux qu'il pouvait effectuer dans l'atelier qui jouxtait sa maison. La nouvelle tomba alors que la communauté se trouvait réunie pour l'office du jour du sabbat. De la lointaine Rome était arrivé l'ordre de recenser les habitants des pays conquis par les armées impériales. Chacun devrait, toutes affaires cessantes, rejoindre le pays dont il était originaire. Aucun délai ne serait toléré. Dans la synagogue, il y eut bien quelques cris de protestation. Un des jeunes gens qui fréquentait, à la grande peur de ses parents, des groupes de résistance anti-romains, tenta de placer un discours appelant à la révolte. Peu l'écoutèrent vraiment. Depuis des années, avec la souffrance et l'oppression, était née la résignation devant l'inévitable. La douleur dans l'âme, Joseph était retourné chez lui. Le voyage que les événements imposaient à Marie serait très pénible pour elle. Les grands yeux de la jeune femme manifestaient de plus en plus fréquemment fatigue, lassitude. Elle accepta cependant, sans mot dire, et très vite ce fut le départ. Il leur faudrait plusieurs journées pour se rendre à Bethléem, la patrie de Joseph. Cela ne signifiait plus grand-chose par les temps qui couraient, mais le jeune charpentier était l'un des descendants de David, le pasteur devenu roi d'Israël des centaines d'années plus tôt. Les Romains qui savaient tout savaient cela aussi. C'était donc à Bethléem, la cité de David, que devrait avoir lieu pour lui et sa famille le recensement obligatoire. Balancée, secouée, Marie souffrait visiblement. Quand Joseph, préoccupé de sa pâleur, lui demandait avec tendresse ce qu'il pouvait faire pour la soulager, elle répondait par un sourire un peu crispé, à travers lequel transparaissait toute sa volonté de ne déranger personne. Bethléem fut en vue alors que la nuit tombait déjà sur les monts de Judée, une de ces nuits constellées d'étoiles dont l'Orient semble avoir le secret. Il fallait de toute urgence trouver un endroit pour se reposer et dormir. Il y avait de nombreuses auberges, mais le recensement avait provoqué un tel afflux de population que même les plus humbles caravansérails avaient clos depuis longtemps leurs grandes portes de bois à peine équarries. Que faire? Marie geignait de plus en plus fréquemment, signe que l'heure de la naissance approchait. Joseph avait tenté de faire appel à la solidarité de vagues cousins de son père. On lui fait comprendre clairement qu'il serait inopportun d'insister. Découragé, Joseph se tourna avec angoisse vers Marie. Cet enfant du miracle allait-il devoir naître dans la rue, comme un esclave? Le jeune charpentier eut alors un éclair de mémoire. Il se revit adolescent avec quelques camarades de jeu. Souvent, ils se rendaient ensemble pour bavarder dans de nombreuses grottes qui trouaient le flanc de la colline. Combien de fois n'avait-il pas délogé les moutons ou le petit bétail que les bergers parquaient dans ces lieux qui étaient à tout le monde et à personne? En un instant, la décision de Joseph fut prise. À défaut d'une maison, le bébé aurait au moins un toit d'argile pour sa venue au monde. À peine le charpentier eut-il arrangé un peu de paille pour permettre à Marie de s'étendre, que la respiration de la jeune fille se fit plus haletante. Joseph se sentait totalement inexpert. Il se souvenait seulement que pour les naissances, on faisait bouillir des grands chaudrons d'eau chaude dans les demeures. Avec des morceaux de sarment récoltés çà et là, il dressa un feu qui pétilla très vite. Il fit chauffer de l'eau dans une jarre ébréchée qui servait d'abreuvoir à l'âne et au bœuf, accroupi à deux pas de Marie. La jeune femme poussa un grand cri et l'enfant vint à elle. C'était un garçon. Il manifesta bruyamment qu'il faudrait désormais compter avec lui. Marie, épuisée, reposait sur la litière, les yeux clos. Elle les rouvrit quand Joseph lui tendit son fils, après l'avoir lavé et frotté de sel. Elle le contempla longuement. et tous deux, le charpentier et sa jeune épouse, se mirent à pleurer. Dieu avait tenu ses promesses. À peine Marie eut-elle allaité pour la première fois son premier-né que le portillon qui fermait sommairement l'entrée de la grotte grinça sourdement. 4, puis 5 têtes apparurent. 3 visages d'hommes brunis par le soleil, un adolescent aux cheveux en bataille et un garçon de 11 ou 12 ans. Des bergers à en croire leurs vêtements pauvres et partiellement déchirés. Joseph les invita à s'approcher. L'un des hommes salua et s'enhardit.
Nous étions là tranquillement à garder le troupeau quand une voix venue d'en haut s'est fait entendre forte et claire à la fois. Bien sûr, nous avons eu une drôle de peur, mais la voix nous a dit « Restez en paix. C'est une grande joie que je vous annonce. Aujourd'hui est né pour vous un sauveur dans la cité de David. Il s'agit d'un enfant que vous trouverez couché dans une crèche. » Derrière la voix, il y avait comme des musiques. Et nous avons cru comprendre que les chants proclamaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Nous sommes là à cause de la nouvelle.
Il se fit un long silence. Marie leur présenta l'enfant. Comme il était petit, le sauveur du monde. Les bergers s'agenouillèrent. Dans leur cœur, sans complication, il n'y avait pas de place pour le doute. De sa besace rapiécée, l'adolescent tira une flûte en roseau et joua pour l'enfant une berceuse lente et pleine d'harmonie. Dans l'azur sombre de la nuit, frappée de la lumière éclatante d'un astre nouveau, les notes filaient en réponse aux autres musiques. Bethléem et le monde dormaient, tandis que dans l'étable, on célébrait le premier Noël. Imagine, quelques petites maisons de pisée brûlées par le soleil dans la torpeur d'une après-midi d'Orient. Les fenêtres sont étroites et les murs épais pour retenir un tant soit peu de fraîcheur. Ici, tout le monde est pauvre. Non de cette pauvreté de misère qui épouvante, mais de celle qui permet d'accueillir les dons de la terre et du ciel comme autant de surprises. Chacun connaît chacun. Les hommes, paysans ou artisans, se côtoient dans leur rue de travail qui est le leur. Quant aux femmes et aux jeunes filles, regarde-les revenir du puits, la jarre d'eau en équilibre sur un coussinet posé sur leur tête. Elles bavardent et interpellent au passage Marie, la fille d'Anne et de Joachim, dont on a célébré les fiançailles avec Joseph le charpentier, il y a déjà plusieurs mois. Ils habiteront ensemble dans peu de temps, affirme Sarah. Qui, on ne sait comment, est toujours mieux renseigné que quiconque. Marie est dans la salle basse de sa maison, derrière le métier à tisser. Elle a répondu en souriant à ses amies qu'elle connaît toutes par leur nom. 13 ans déjà qu'elle a son univers ici, ponctué par les événements simples du village, sabbat, fêtes solennelles ou célébrations graves. Elle n'ignore rien de l'histoire de son peuple. Elle est née dans une famille où le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël, est respecté et aimé. Combien de fois, à la synagogue, n'a-t-elle pas entendu les récits des prophètes des anciens temps, rappelant l'amour persistant de Dieu pour Israël, si souvent infidèle? Comme toutes les petites filles israélites, elle a rêvé que peut-être naîtrait d'elle un jour le Messie que tous attendaient. On en aurait bien besoin du Messie, disait récemment Samuel, l'un des voisins. Il nous débarrasserait des Romains qui ne savent faire que deux choses, accroître sans cesse le poids des impôts et dresser des croix pour se débarrasser de ceux des nôtres qui, à leur gré, bougent un peu trop. Marie avait écouté en silence ce qu'elle faisait toujours. Dans son cœur, elle sentait très fort que le Messie désiré de tous viendrait certainement. Mais quand ? Vers 8 heures, Joseph était venu lui parler de sa journée. Elle lui avait montré la pièce de toile terminée qu'elle ferait tailler un de ses jours pour en faire une tunique. Il lui avait souri et était reparti, la laissant seule. Joseph n'était pas bavard, mais Marie représentait tout pour lui. Il pensait à elle avec émerveillement. Elle était belle, douce et pure. Il se voyait déjà à ses côtés, heureux plus que jamais de pousser le rabot pour assurer leur bonheur tranquille. Ils auraient des enfants, beaucoup d'enfants, car Dieu les bénirait. Dans la maison de Marie, comme dans tout le village, est tombé le silence de la nuit. Au loin, quelques aboiements, des bruissements d'insectes. Soudain, une lumière et une voix étrange, comme dans un songe. Marie s'éveille, surprise, un peu craintive. Alors, harmonieuse, les paroles retentissent en elle, autour d'elle, elle ne sait.
N'aie pas peur, Marie. Dieu te regarde avec amour. Voici ce que je suis chargée de te dire. Tu vas porter un fils, tu le mettras au monde, tu le nommeras Jésus. Il changera la face de la terre et on l'appellera le Fils du Tout-Puissant. Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur le peuple choisi jusqu'à la fin des temps.
Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis pas encore mariée.
L'Esprit Saint viendra en toi. La puissance de Dieu va te recouvrir de son ombre. Aussi, l'enfant qui naîtra de tes entrailles pourra être appelé Fils de Dieu. Non, tu ne rêves pas. Et en voici la preuve. Ta cousine, Élisabeth, celle qui se lamentait d'être stérile, eh bien, elle attend un enfant qu'elle mettra au monde dans 3 mois. Vois-tu, pour Dieu, tout est possible.
Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse selon ce que tu as dit.
La maison était à nouveau silencieuse, curieusement semblable à la maison d'avant, celle qui avait abrité sa vie simple et sa prière de petite juive. La voix lui avait dit qu'elle était pleine de grâce, que Dieu était avec elle. Son cœur émerveillé de tant de révélations bouleversantes battait à tout rompre. Le Très-Haut l'avait choisie, elle qui se sentait si peu de choses. Oui, Dieu l'avait choisie. Et ses promesses, il les tiendrait comme il l'avait toujours fait, en Babylonie, en Égypte et ailleurs. L'enfant naîtrait, c'est certain. Pour le moment, cependant, il fallait d'abord penser à Élisabeth, courir chez elle, l'aider dans les derniers préparatifs. Joseph serait certainement d'accord. Il n'était pas là jusqu'au lendemain dans la soirée. Un travail urgent a terminé dans un village distant de plusieurs kilomètres. Elle le ferait avertir par les voisins, afin qu'il ne s'inquiétât pas. 1 heure plus tard, toute recommandation faite, Marie prenait la route, juchée sur l'âne qu'elle avait reçu en héritage de sa mère, morte peu de mois auparavant. Il lui faudrait 5 bonnes heures pour rejoindre la ville dans laquelle habitait Élisabeth, une ville qui lui était familière puisque, toute petite, elle l'avait visitée à l'occasion de la Pâque. Il faisait chaud, très chaud, et l'âne avait du mal à garder un trot régulier. Peu importait à Marie. Elle était à la fois là et tout à fait ailleurs, perdue dans des pensées entrecoupées de joie et de questions. Elle avait répondu oui à la voix de l'envoyé de Dieu. Mais c'était maintenant le visage de Joseph qui s'imposait à elle. Comprendrait-il l'étrange aventure dans laquelle, à son insu, elle l'entraînait? Dieu lui ferait-il signe, comme à elle, pour lui expliquer que leur amour devait maintenant croître autour de cet enfant unique qui allait prendre corps? Elle n'était pas préoccupée, mais se disait en elle-même que l'événement dont elle était devenue le centre allait sans doute bouleverser beaucoup de plans et de projets. À l'approche du but de son voyage, Marie fut tirée de sa méditation par les rumeurs de paysans poussant devant eux leurs troupeaux de chèvres. Ils parlaient à voix haute des bonnes affaires qu'ils avaient réalisées au marché. Marie leur sourit au passage. Ils répondirent distraitement à son salut. Quelques dizaines de mètres plus loin, la jeune fille aperçut à l'angle de la ruelle la maison imposante de Zacharie et d'Élisabeth. À l'intérieur de la cour, des servantes, assises à même le sol, pétrissaient la pâte qui servirait à faire le pain pour la semaine à venir. L'une d'entre elles avait reconnu Marie qui s'était avancée, la tête encore recouverte du voile qui l'avait protégée durant le voyage. Elle se hâta d'aller avertir Élisabeth dans la grande salle haute. Marie la vit arriver, le visage illuminé. Sur les lèvres d'Élisabeth se mit à fleurir un langage nouveau dans lequel le respect et la vénération semblaient avoir remplacé l'affection, l'amitié.
Parmi toutes les femmes, tu es bénie, Marie, et bénie est l'enfant que tu portes en toi.
Élisabeth savait donc le secret de Marie. Elle savait tout, cette cousine tant aimée, qui inconsciemment, les mains doucement appuyées sous sa poitrine, semblait protéger un trésor. Elle continua, comme extasiée.
D'où me vient donc la grâce de recevoir sous mon toit la mère de mon Seigneur? À peine ai-je entendu ta voix, Marie, que l'enfant qui est en moi a tressailli de bonheur. Oui, tu es bien heureuse, car tu as cru que se réaliserait vraiment tout ce que Dieu t'a fait connaître.
Alors, Marie, le cœur débordant de reconnaissance, sentit monter en elle la poésie de son peuple et se mit à exprimer la foi de siècles et de siècles d'espérance et d'attente aujourd'hui accomplie.
Mon âme chante la gloire du Très-Haut et mon esprit est plein de joie dans le Seigneur qui m'a sauvée. Il s'est penché sur son humble servante. À cause de lui, les générations à venir me diront bienheureuse. Le Seigneur a voulu réaliser en moi de grandes choses, lui, le Saint. Sa bonté, je le sais, s'étendra de génération en génération sur ceux qui font sa volonté. Il déploie la force de son bras et réduit à rien les cœurs orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Grâce à lui, les petits relèvent la tête. Les affamés repartent comblés de ses faveurs. Les rassasiés regardent leurs mains vides. Il a rendu l'espoir à Israël, son serviteur, en souvenir de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.